aussi. Donc bonjour tout le monde. Pour ceux que j'ai pas pu saluer tout à l'heure, je voulais aussi vous dire qu'aujourd'hui on a le privilège d'avoir parmi nous le pasteur Tim Ross, qui est missionnaire, qui est pasteur dans le sud de la France. En fait, le pasteur Tim Ross n'est que le père de notre très chère et sœur Claire-Marie. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vers lui à la fin, pour ceux qui n'ont pas pu le voir en début de culte. Bon, en tout cas, c'est un plaisir pour nous, pasteur, d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, donc, je vous souhaite la bienvenue à vous tous qui venez vous assembler à l'église réformée baptiste de la Trinité. Et donc, en cet après-midi, nous allons continuer dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3. Et il y a quelques semaines, on avait débuté les trois premiers versets. Donc, pour plus de contexte, donc je vais relire les trois premiers versets et puis vous lire les versets 4 à 6. Donc, Philippiens, chapitre 3, verset 1 au verset 6, lisons pour la gloire de notre Seigneur. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Parole du Seigneur. Donc dernièrement, nous avons vu que l'apôtre Paul a commencé à aborder le danger du légalisme des judaïsants, mettant en garde les Philippiens contre leur enseignement. Les judaïsants contre lesquels Paul mettait en garde les Philippiens manquaient pas de zèle. Leur insistance sur la circoncision de ceux qui se convertissaient à l'âge adulte, par exemple, soulignait le niveau d'engagement qu'ils avaient et qu'ils attendaient de ceux qui se convertissaient au christianisme. Ils faisaient état d'un certain zèle, un zèle qui était mal placé, mal orienté. Ils étaient spirituellement incultes et leur directive était contraire à la parole de Dieu. Et l'intervention de Paul était aussi d'interpeller les Philippiens quant à ce genre de personnes. Parce qu'il est trop facile pour des nouveaux chrétiens immatures de tomber dans ce piège-là, de ce type d'enseignement. À bien des égards, l'idée d'être supérieur, pour eux, de pouvoir se vanter de certains accomplissements personnels par rapport aux autres, est la marque d'un faux enseignement, parce qu'ils se reposaient sur les œuvres humaines. Et malgré toute l'apparence de leur spiritualité avancée, ces faux enseignants, et l'apôtre laisse entendre que leur confiance n'était pas dans le Christ. Leur confiance était dans les choses qu'ils avaient accomplies. Leur confiance était en effet dans ce qu'ils avaient toujours appris depuis qu'ils étaient circoncis à l'âge, disons, au jour 8, par rapport aux lois cérémonielles et autres. » Et leur espoir et leur confiance n'étaient pas enracinés dans la loi de Christ, ni motivés par l'amour de Christ. Leur zèle n'était pas selon la connaissance de Christ, comme on le voit dans Romains 10, verset 2. Donc aujourd'hui, nous allons voir deux points. Le premier point, c'est que Paul met au défi les judaïsants au verset 4. Et le deuxième point, c'est les lettres de créance que nous voyons des versets 5 au verset 6, les lettres de créance de Paul. Et donc au verset 4, Paul écrit... Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Et en effet, il met au défi les judaïsants. Donc après solidement argumenté contre le principe de faire confiance en la chair, Paul va leur démontrer qu'il a plus de raisons que quiconque de faire confiance à sa propre chair. Avec les lettres de noblesse que nous allons voir, nous pouvons être tentés de penser que Paul se vantait, en fait. Mais non, il ne se vantait pas. C'était exactement le contraire. Il dit simplement que si quelqu'un pouvait avoir confiance en ses bonnes œuvres, ce serait lui. Et ici l'expression « si quelqu'un se rapporte à tout ce qui plaçait leur confiance en la chair ». Il écrivait ces choses comme s'il mettait les judaïsants au défi de le surpasser lui-même. La conclusion préliminaire à laquelle il en vint, avant même de rentrer dans le vif du sujet, c'était que peu importe les avantages que ses adversaires évoqueraient, c'est-à-dire les judaïsants, ses propres atouts étaient supérieurs aux leurs. Et dans Galates 1, verset 14, il est écrit « Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. » Il avait ce zèle-là. Et on va même voir... dans l'histoire de Paul, en effet, c'est que depuis l'adolescence, il était au contact des rabbins. Il y en a même, il y a certains commentateurs qui disent qu'il avait même, en fait, c'était l'équivalent de 3 doctorats. Il ne fait aucun doute qu'il fut un temps où Paul avait placé sa confiance en la chair. Mais cette époque était bel et bien révolue. Et Paul, ici, voulait souligner son audace et son orgueil passé au bénéfice des Philippiens, parce qu'il pouvait se vanter de tout ce qu'il avait accompli, de tout ce qu'il avait fait personnellement, de par son pédigré et de ses œuvres personnelles. Et en tant qu'apôtre, Paul n'accordait plus aucun crédit à ce qu'il pouvait bien accomplir. Pire encore, il se méfiait de lui-même. Paul se méfiait de lui-même. Il le dit en effet. Et il a expérimenté cela par rapport au prophète de l'Ancien Testament. Donc Jérémie 17, verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux. Il est méchant. Par là, nous comprenons que Paul savait que l'homme, dont sa nature intrinsèque, était totalement dépravé. L'homme était dépravé par nature. Que le péché a corrompu toutes ses parties de sa nature et le rend incapable de toute bonne œuvre et d'aucun bien spirituel. Et nous y lisons que dans le précis de doctrine chrétienne de Lubberkopf, il parle de l'homme avec le grand H, c'est-à-dire que homme et femme. L'homme, il peut encore faire des choses louables envers ses semblables. Mais même ses meilleures œuvres sont radicalement viciées, radicalement viciées, radicalement dans le vice, parce qu'elles ne sont pas motivées par l'amour de Dieu, ni accomplies en obéissance à Dieu. Nous sommes totalement, complètement dépravés et ne sommes pas disposés à faire des œuvres aussi bonnes qui peuvent plaire à notre Dieu. Et l'apôtre va maintenant donner ses références, présenter ses lettres de créance, pour ainsi dire, bien montrer que ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ sont les vrais circoncis, que ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort pour leurs péchés, c'est ceux-là les vrais circoncis. Paul connaît les arguments des judaïsants et il veut les débouter. Et ces faux enseignants peuvent effectivement dire aux chrétiens d'origine païenne qui ne comprennent pas le riche héritage du judaïsme. En effet, ils peuvent le leur dire. Mais ils n'oseraient jamais dire de cela de Paul, parce qu'ils connaissaient Paul aussi. En fait, Paul avait une longueur d'avance sur tous ses compatriotes. Comme on l'a vu dans l'épître aux Galates, dont la pratique du judaïsme j'allais plus loin que la plupart des juifs de ma génération. Et j'étais bien plus zélé qu'eux. Il avait ce zèle. Et tout le monde connaissait Paul. Il savait ce qu'il faisait. Il savait comment il persécutait le peuple de Dieu. Il savait comment il persécutait Christ. Et si quelqu'un a été juif jusqu'au bout des angles, comme on le dit, jusqu'à la moelle, c'était bien Paul. Si quelqu'un avait pu gagner le paradis par ses œuvres, c'était bien Paul. Notre deuxième partie, les titres de noblesse de Paul. Et donc, ces judaïsants qui revendiquaient une certaine supériorité spirituelle, religieuse et pratique, plus ancienne que l'évangile de Paul. En fait, mais Paul est capable de leur donner ses propres antécédents. Eux-mêmes supérieurs à eux et arguments. Tout cela, toutes ces œuvres de la chair étaient honorables. Toutes ces œuvres de la chair étaient honorables. Il énumère maintenant cette marque de sa propre vie qui aurait pu lui donner une raison d'avoir confiance en la chair. Donc dans les quatre premiers, nous allons voir en effet que ce sont c'est ce qu'il a hérité quand on parle de pédigré, en effet, c'est de là où il vient. Et pour les trois autres, on va voir que c'est des œuvres qu'il a accomplies, ce qu'il a mené, ce qu'il a fait au cours de sa vie. Donc, le premier de son pédigré, circoncis le huitième jour. Circoncis, Paul a été circoncis le huitième jour. Donc, il est important de le noter. Et Paul n'a pas refuté leur argument de la circoncision du huitième jour. Paul a été circoncis alors qu'il n'avait que 8 jours de naissance, comme l'ordonne la loi juive. Ainsi, si la circoncision était le moyen de justification, c'est que Paul était justifié. Il était né dans une famille où les règles de l'Ancien Testament étaient observées avec exactitude, avec promptitude, à la lettre. Il n'est pas venu circoncis en tant que converti. Il montre qu'il est un juif pure race. Comme on dit ici, québécois, de pure laine, mais il était pure race, ce juif pure race. De parents pieux qui ont rigoureusement respecté les exigences de la loi de Moïse, mais Jésus lui-même aussi, on le voit dans Luc 2, verset 21, a été mené au temple pour se faire circoncire le huitième jour. Jésus n'a pas dérogé à la lettre. à la règle plutôt, du huitième jour. Et le deuxième point, il était du peuple d'Israël par sa naissance. Nous connaissons le peuple d'Israël, un pur et vrai descendant du grand patriarche de l'Ancien Testament, Abraham. Paul dit qu'il était israélite de naissance, un vrai de vrai, pure race, de souche comme ses parents. Il insiste lourdement sur ce patrimoine là juif qu'il avait. Il est clair tout au long de l'Ancien Testament que le peuple juif était un peuple spécial aux yeux de Dieu. Ce peuple était spécial. Pourtant, ils étaient spéciaux non pas à cause des Israélites, de ce qu'ils avaient à offrir, mais parce que Dieu lui-même les avait choisis pour être son peuple. C'est Dieu qui les avait choisis. Ce n'était pas à cause de leurs œuvres. Les Israélites étaient le peuple de Dieu mis à part et sanctifié à des fins divines. Et Paul n'était donc pas un impur converti au judaïsme, mais un membre de cette nation, et en effet, il pouvait s'en vanter. C'est un peu comme être le fils de la reine d'Angleterre, sur terre, par exemple. Donc il pouvait se vanter d'être d'Israël. Et de plus, il dit qu'il était de la tribu de Benjamin. C'est un fait qu'il mentionne à nouveau comme significatif dans Romains 11, verset 1, parce que Benjamin était le fils spécial de Jacob et de Rachel. Et sa naissance a coûté la vie à sa mère. Mais plutôt que de nommer « fils de ma douleur Ben Oni », Jacob l'avait appelé « fils de ma droite Benjamin ». On le voit dans Genèse 35, verset 18. C'était de la tribu de Benjamin que Saül, le premier roi d'Israël, avait émergé. Et la tribu de Benjamin était certainement l'une des plus prestigieuses des 12 tribus. L'une des plus prestigieuses. Paul savait d'où il venait. Il ne venait pas de n'importe où. Et en fait, dans notre jargon aujourd'hui, on peut dire que non, il est né avec des cuillères en argent. Il pouvait s'en vanter. Thomas Costable écrit que Benjamin était le plus jeune des deux fils nés de la femme préférée de Jacob, Rachel. Benjamin était le fils unique de Jacob, né de la terre promise. La tribu de Benjamin a fourni de nombreux guerriers nobles tout au long de l'histoire d'Israël. Vous pouvez le voir dans Osée 5, verset 8. Le premier roi légitime d'Israël est issu de la tribu de Benjamin. Jérusalem et le temple se trouvaient sur le territoire de Benjamin. Seule cette tribu, à côté de Juda, resta fidèle à la maison de David lorsque la monarchie se divisa en 931 avant Jésus-Christ. Paul savait d'où il venait. Il donne ses lettres de noblesse parce qu'il sait d'où il vient. Mais en fait, en aucune façon, il s'en est vanté. Mais il leur démontrait en effet que si il y avait une personne qui devait vivre par la chair, c'était bien lui. Et toujours au verset 5, il rajoute qu'il était un hébreu des hébreux. Hébreu des hébreux. Bien que Paul avait été élevé dans une ville hellénistique, en fait, la Grèce antique, et donc cette époque, ça marque la fin de la domination romaine. Donc la Grèce, c'était une grande métropole, c'était une grande ville où il y avait beaucoup d'activités qui se passaient. Et cela ne l'a pas empêché d'apprendre la plénitude de son héritage juif, où il connaissait et maîtrisait la langue grecque. Ce qui lui permettait d'écrire ces lettres, en effet, que nous lisons de nos jours. Oui, il connaissait et maîtrisait la langue grecque. Il avait étudié l'hébreu. Il était élevé dans une famille hébreuse. Et puis dans la langue hébraïque, une langue, c'est vrai que c'était une langue moins populaire, mais c'était une langue qui était connue. Et lui, par la suite, il a écrit ces lettres qui sont une richesse pour nous aujourd'hui. Et il pouvait s'en vanter. Il était un locuteur natif de l'hébreu, élevé dans cette famille hébraïque. Et il a appris aux côtés du rabbin Gamaliel. Le rabbin Gamaliel. Et ce rabbin-là, qu'il avait formé de fond en comble, jusqu'à fond. On voit, on parle du rabbin Gamaliel dans Actes 22, verset 3. Et puis, et ce rabbin-là, on le surnommait l'Ancien. On le surnommait l'Ancien parce qu'il avait cette réputation à l'époque. Et c'est même lui dans Actes 5, 34, 39, qui avait intervenu en la faveur des apôtres. Tandis qu'il devait comparaître devant le Sanhédrin pour ne pas avoir respecté l'ordonnance de ne pas enseigner, de ne pas prêcher. Il avait intervenu pour les apôtres. Et donc, c'était une grande personnalité à cette époque. Et Paul avait appris à ses côtés. Il pouvait également s'en vanter. Mais aussi, la plus à venir... C'est que ces motifs de confiance en la chair, c'est vrai qu'ont été hérités. La formation, son pédigré, sa famille, le peuple juif. Paul lui-même avait ajouté des œuvres personnelles. Il y avait des œuvres personnelles. Et il a voulu en parler également. Donc premièrement, il avait adopté le style de vie d'un pharisien par rapport à la loi. Il avait adopté ce style de vie-là. Il vivait comme un juif, comme un pharisien. Les pharisiens étaient une secte juive née au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ils étaient profondément attachés à la religion pure. Donc, afin de maintenir une relation d'alliance avec Dieu, ils ont strictement observé la loi mosaïque. Et donc, pour ce faire, ils ont également scrupuleusement respecté une longue liste d'exigences personnelles ajoutées à la loi. Et aucun judaïsant du premier siècle ne pourrait surpasser ces hommes dans leur zèle pour la religion de l'Ancien Testament. Et leur engagement à garder la parole de Dieu était sans précédent. Ils avaient ce zèle-là pour faire respecter la parole de Dieu, pour faire respecter la loi. Ils avaient un engagement si profond à faire respecter la loi qu'ils en ont fait créer leur propre loi. Ils avaient ce désir-là de faire respecter. Mais en plus de ça, c'est qu'ils en ont fait d'autres pour eux. Et pourquoi? Juste pour qu'ils puissent éviter à tout prix d'enfreindre la loi de Dieu. Leur nombre était petit. Il était insaisissable. Et Paul en faisait partie. Il avait adopté ce style de vie. Et il va rajouter que Paul rajoute que personne parmi les faux docteurs ne pouvait le surpasser dans son zèle et dans ses actions. Dans son zèle, parce qu'il avait ce zèle-là pour faire respecter. Il a persécuté les chrétiens, il a persécuté Christ. Comment peut-on appeler ce type de zèle? C'était du zèle mal placé, mais il était zélé. Zélé dans ses actions. Paul avait autrefois été tellement irrité par l'enseignement des premiers chrétiens qu'il avait été un persécuteur de l'Église. Il s'acharnait sur le peuple de Christ, sur les apôtres. On voit que dans Actes 8, verset 3, qu'il les a emprisonnés. Il a emprisonné les apôtres. Il avait même essayé de les forcer à blasphémer. Acte 26, verset 11. Et en fait, il n'est pas étonnant qu'il en soit venu plus tard à se considérer lui-même, en effet, dans 1 Timothée 1, verset 15, comme étant le premier des pécheurs. Il les a persécutés. Il les a forcés à blasphémer. Il avait voté pour la peine de mort pour les chrétiens, dans Acte 26, verset 10. Et il avait été témoin de leur exécution, dans Acte 7, verset 58. Il était zélé. Il voulait faire respecter la loi, mais à sa façon. À sa façon. C'était un zèle qui ne connaissait pas de limite. Et c'était un zèle rempli d'énergie pour combattre les chrétiens. Paul croyait être, en termes de justice, sous la loi, irréprochable. Verset 6. Irréprochable. Ça veut dire quoi? Sans péché. En fait, son observance de la loi pharisienne, de la loi, était irréprochable. On voit cela comme Paul défiant les lecteurs de lui trouver des défauts. En fait, il leur disait, quel défaut que j'ai? J'ai quel défaut? J'ai persécuté le peuple de Dieu. J'ai essayé de faire respecter la loi de Dieu. J'ai quel défaut? Je suis irréprochable. Il ne prétend pas être sans péché. Plutôt, selon toutes les œuvres et toutes les idéaux du judaïsme, Paul dit qu'il était irréprochable. C'est vrai qu'il ne disait pas, en fait, il disait pas qu'il était sans péché, mais par rapport aux idéaux du judaïsme, il était irréprochable. Il a fait tout ce qu'on lui demandait, et même plus encore. Et seule une poignée de personnes à travers l'histoire ont pu égaler le dévouement et la pratique religieuse de Paul. Et Sinclair Ferguson écrit que le monde est plein de gens comme Paul, sincères dans leurs croyances. Ils produiront tous les efforts, paieront le prix fort et sacrifieront tout ce qu'ils ont pour essayer de plaire à Dieu. Il y en a toutes sortes, juifs orthodoxes, catholiques convaincus, protestants dévoués, musulmans pieux, bouddhistes ascètes, hindous fervents et bien d'autres. Ils prient, ils jeûnent, vivent dans la pauvreté et cherchent à faire le bien autour d'eux. Mais le zèle religieux ne garantit rien et n'ouvre pas les portes du ciel. Ce zèle mal placé, en fait, on peut dire, ne garantit pas le salut ni les portes du ciel. Et gloire à Dieu que Paul l'a compris par la suite, grâce à Damas. Paul était irréprochable, blanc comme la neige, vis-à-vis de la loi de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il se considérait sans péché. D'ailleurs, dans une de ses lettres, en fait, il déclare, dans Romains 7, verset 7, « S'il n'y avait pas la loi, je n'aurais pas connu le péché. » Il ne disait pas qu'il était sans péché. Il était irréprochable. Il était irréprochable à cause de ses œuvres, par rapport à tout ce qu'il avait fait en tant qu'humain. Mais il ne disait pas qu'il était sans péché. Et il dit que s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché. Et je n'aurais pas su ce que c'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas. » Tu ne convoiteras pas. Et là, en fait, lorsqu'on se réfère aux trois usages de la loi selon Jean Calvin, nous voyons ici, en effet, cet usage pédagogique de la loi à la manière d'un miroir, en effet, qui nous montre et qui sert de révélation du péché. Et c'est ce qui s'est passé pour Paul. C'est que la loi nous montre, en effet, que nous sommes pécheurs. Et il a montré à Paul l'état de péché dans lequel il se retrouvait. Et il est intéressant que pour illustrer son péché, Paul, ici, parle de la convoitise. Tu ne convoiteras pas. Pourquoi il ne dit pas « tu ne tueras pas » Il parle de convoitise. Parce que c'est quelque chose que nous avons en nous, en fait. Le péché du meurtre ou quoi que ce soit peut être identifié, comme on dit. Mais en effet, la convoitise, personne ne saura qu'un tel convoite ou quoi que ce soit. On peut être certain ici que Paul ne s'était jamais rendu coupable de fautes aussi grossières. S'il a mentionné la convoitise, c'est parce que c'est relativement facile à cacher. C'est facile à cacher. Il ne savait rien dit, c'était du ni vu ni connu. Personne n'aurait jamais su qu'il se soit rendu coupable d'un tel acte ou d'une telle faute à l'époque. Quand Paul affirme qu'il est irréprochable, il veut dire que par sa naissance, par sa vie impeccable, sans tache, par son respect des préceptes de Moïse et de la tradition des anciens, il était parfaitement en règle vis-à-vis des exigences de la loi. Il était parfaitement en accord avec les exigences de la loi. Et pour tous ceux qui le connaissaient, c'était un juif modèle. C'était un juif modèle. En fait, quand on parle de modèle, en fait, on pouvait s'en inspirer. Au regard de la mise en pratique de l'aspect légaliste de la loi, il était un super saint. Il était un super saint. Il avait parfaitement le droit de dire, au verset 4, « Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. » Tout ce qu'il avait fait, son pédigré, le fait qu'il venait, qu'il était né israélite, qu'il avait observé la loi de ses ancêtres, qu'il avait persécuté, en effet, par ses œuvres, il a essayé de défendre la loi en persécutant les chrétiens, en persécutant Christ, qu'il était irréprochable. Tous les bénéfices que Paul avait accumulés par sa naissance, par la force de son caractère, constituaient son crédit auprès de Dieu. Disons le pactage, le bundle comme on dit en fait, parfait pour le déposer à la porte du ciel et d'entrer dans le paradis. C'était juste parfait. Il alla voir cette entrée triomphale dans le ciel. Il était confiant, sûr de lui et certain d'être dans la volonté de Dieu. Quand il se rendait à Damas, il était sûr de lui quand il se rendait à Damas. Et il se rendait à Damas pour persécuter les chrétiens. Il était sûr de lui. Dans Actes 7, 55 à 60, on voit que Étienne, le martyr, avait expérimenté ce que tout le zèle et le respect de la loi de Saül de Tarse ne pouvaient apporter. Étienne avait Christ. Et avoir Christ signifie tout. Saül n'avait que le respect des règles pharisiennes. Il n'avait que le respect de ces règles-là. Sans Christ, il n'avait rien. Il avait uniquement ces règles-là, ces règles de vie. Il les a adoptées. Il a grandi là-dedans. Mais est-ce que son cœur y était? Il n'avait pas Christ. Il n'avait rien. Et toutes les raisons que nous avons de faire confiance en la chair, que ce soit la famille, notre descendance, on peut se dire, je viens d'une famille chrétienne, ben je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Je n'ai peut-être pas besoin de Christ. J'ai peut-être toutes les richesses du monde. J'ai une vie hyper décente. Est-ce que cela suffit? Est-ce que tous nos accomplissements, ici-bas, en fait, nous vivons dans ce monde, on court souvent après tout type de choses. Il y a un cheminement bien spécifique, je me rappelle chez nous en Afrique, c'est que quand tu viens au monde, à un moment donné, tu te maries, tu as des enfants, tu as un travail, tu construis la grosse maison, tu as la grosse voiture. Mais est-ce que cela est suffisant? Est-ce que nous vivons ici éternellement sur terre? Nous sommes de passage en fait. Nous sommes du royaume de Dieu, mais présents ici dans le royaume de la terre où nous sommes de passage. Nous sommes que des pèlerins. Et tout ce que nous avons ici n'est que pure vanité en effet, qui ne nous servira pas dans le ciel. Et nous avons besoin de Christ pour cela. Et ici, en effet, Paul énumère toutes ses lettres de noblesse, ses accomplissements, son pédigré, d'où il venait, de ce peuple juif-là, ce peuple élu. Il aurait pu se reposer uniquement là-dessus. En fait, il s'est reposé là-dessus. Si nous n'avons pas Christ, tous nos accomplissements sont vains et sans valeur aux yeux de Dieu. En conclusion, Paul a dénoncé le caractère méprisable de la chair dans son caractère religieux. Il l'a dénoncé. En rappelant ce qui était sa propre vie avant sa conversion. Et en effet, il ne s'est pas vanté. Il ne se vantait pas, mais il voulait montrer. Il voulait faire comprendre que lui aussi pouvait s'attacher, se reposer sur ses acquis. Il aurait pu faire confiance à ses vertus. Selon celle-ci, il était d'une piété exceptionnelle et sincère. Les ordonnances prescrites par la loi avaient été observées. Il avait été circoncis le huitième jour. C'était un juif de la pure ascendance, pure race. Quant à sa vie religieuse, il appartenait à la secte juive la plus stricte, celle des pharisiens. Nul ne pouvait douter de sa sincérité, de son zèle, car en cherchant à défendre sa religion, on peut dire qu'il a commis en fait l'irréparable, il a persécuté Christ. Son zèle l'a emmené, l'a poussé à persécuter Christ et son Église. Quant à la justice, qui consistait à observer les rites de la loi, il était sans reproche, irréprochable. mais totalement aveuglé par sa condition spirituelle. Il était irréprochable, c'est vrai, mais complètement aveuglé, spirituellement parlant. Et en effet, nous sommes comme ça aussi. C'est que nous voulons respecter à la lettre. Des fois, nous sortons des contextes, en fait. Mais spirituellement, où nous en sommes avec notre relation avec Christ? Par pure grâce, Jésus s'est dressé sur sa route pour lui dire qu'il avait bâti sa vie sur du sable et qu'en effet, il avait tout faux. Paul n'était pas sur le droit chemin. Il n'était aucunement sur le droit chemin. Et devant le phénomène de Paul, des questions s'imposent à nous, des chrétiens d'aujourd'hui. Où en sommes-nous dans notre vie? Où en sommes-nous dans notre relation avec Christ? Sommes-nous en règle par rapport à Christ? Est-ce que nous nous reposons sur nos œuvres? On peut avoir un vécu, accumuler des richesses, être d'une famille noble. Est-ce que nous nous appuyons là-dessus? Avant de nous reposer sur nos acquis et notre pédigré, nous devons prendre conscience du fait que nous sommes totalement dépravés. Nous devons prendre conscience que nous sommes totalement dépravés, nous sommes des pécheurs. Nous avons hérité de la pollution du péché. Nous avons cette prédisposition à pécher, nous sommes incapables de faire le bien. Nous avons cette incapacité à faire le bien. Ce ne sont pas nos œuvres qui vont nous faire hériter du royaume des cieux. Ce ne sont pas nos accomplissements. Ce ne sont pas nos œuvres. Ce ne sont pas nos diplômes. Nous luttons avec ce péché réel. Je parle de péché réel parce que, à la différence du péché originel, nous luttons avec ce péché réel en nous et les désirs et les décisions qui en découlent du péché en effet originel. Des péchés que l'on distingue de notre nature et de notre tendance et de notre inclinaison à pécher. Le péché originel, en fait, il est unique, mais les péchés réels sont multiples. Nous péchons par acte, par omission, tout le temps. Tout le temps. Se confier et vivre par la chair se réfère à l'existence de l'homme, pour autant dire que celui-ci est sous la domination du péché. C'est que nous sommes dominés par notre péché, nous sommes guidés par notre péché. Romains 7, verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Romains 8, verset 5 à 9. Ceux en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent des choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié devant Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas se soumettre à cette loi. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et être dans la chair, c'est vivre en fait de façon autonome, en dehors de Dieu. C'est vivre loin de Dieu, vivre avec nos propres règles. J'ai accompli telle chose, je peux m'appuyer là-dessus et je n'ai pas besoin du reste. J'ai fait ci pour un tel, c'était ma bonne œuvre, je n'ai pas besoin du reste, je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. Parce qu'il y a des personnes, en effet, il y a des gens qu'on côtoie, à qui on parle, à qui on évangélise, quand on veut leur parler de Christ. Elle me dit, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. J'ai ma famille, j'ai mon travail, ça me suffit. J'avais approché quelqu'un quand j'ai voulu lui parler du Seigneur. Il dit, c'est bon, je connais ça parce que j'ai un doctorat en philosophie. Je dis, bon. Bon, vous connaissez, je ne suis pas allé plus loin. Donc, je dis, ok. Mais si nous n'avons pas Christ, que sommes-nous en fait? Et nous avons besoin de Christ. Pourquoi nous avons besoin de Christ? Parce que Christ, par son sacrifice, nous a justifiés. Christ, par son sacrifice sur la croix, nous a justifiés. Nous avons besoin de Christ. Et que même si dans nos péchés réels, au quotidien, et nous savons que nous sommes en sanctification progressive, nous savons qu'il est fidèle et bon pour nous pardonner nos offenses. Qu'en allant à la croix, en lui demandant pardon pour nos offenses, nous savons qu'il est capable de nous laver de toute iniquité et de nous rendre plus blancs, plus blanc que la neige. Et c'est uniquement lui qui peut faire ce travail en nous. Christ nous a justifiés, nous a sanctifiés pour notre glorification à venir. Et c'est pourquoi nous avons besoin de lui donner nos vies. Nous avons besoin de marcher avec lui. Nous avons besoin de nous abandonner tout entier. C'est vrai que dans nos vies, souvent, en fait, Paul parlait de convoitise, mais il y a souvent dans nos vies des parties qu'on ne veut pas donner à Christ. Mais c'est tous les compartiments de notre vie que nous devons donner à Christ. Galates 5, versets 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Christ est notre seul sauveur. Nous n'avons pas besoin de Christ plus quelque chose. Comme les pharisiens, Christ plus la circoncision. Christ à lui seul suffit. Nous n'avons pas besoin de Christ plus nos œuvres. Aussi bonnes qu'elles puissent être. C'est exclusivement à Christ, exclusivement à lui. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce message. Merci pour le témoignage de Paul, en effet, qui est extraordinaire de par son pédigré, de par ses accomplissements. Et Seigneur, nous sommes conscients du travail que tu peux faire dans le cœur de l'homme. Comme utiliser une personne dépravée pour ton œuvre. Et Seigneur, aujourd'hui nous voulons venir à toi, au pied de la croix, parce que tu nous connais. Tu connais nos combats, tu connais nos faiblesses. Tu nous connais de fond en comble. Seigneur, nous te prions de nous donner ce cœur humble, cette humilité d'esprit, cet amour pour toi, ce désir de vivre cette relation avec toi. De ne pas nous reposer sur nos acquis, de ne pas nous reposer sur notre chair corrompue. Parce qu'en effet, il n'y a rien de bon qui sort de nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous te donner notre vie, afin que tu puisses en faire ce que tu veux, Seigneur, pour ta gloire et pour ton œuvre. Seigneur, dirige-nous, que nous ayons sainte inclinaison à t'adorer, à te louer pour ce que tu es, notre Seigneur, notre Sauveur. Merci pour cette parole, Seigneur. Qu'elle soit gravée sur les tablettes de notre cœur, Seigneur. Qu'elle puisse faire son effet. Et que nous soyons des modèles. Que nous soyons en effet des modèles selon Christ. Pour ta gloire. Pour l'édification de ton corps, Seigneur. Pour l'évangélisation. Seigneur, nous te demandons pardon si, dans une façon, nous avons péché contre toi, Seigneur. Pardon parce que si nous nous sommes reposés sur nos acquis, sur ce que nous avons, pour nous glorifier, pour un zèle excessif, mais en effet qui n'a pas sa place avec toi. Seigneur, donne-nous la sagesse et l'intelligence de toujours recourir à toi et à ta parole, Seigneur. Donne-nous ce courage-là, cette force de nous appuyer en Christ, en Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est mort pour nous libérer des captifs. Je te prie, Seigneur, de bénir par ta grâce cette assemblée, de bénir tous ceux qui nous visitent, de bénir ceux qui nous écoutent en ligne également. Nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.